À l'avant-dernière station, quand le contrôleur prit les billets, je rassemblai mes bagages et passai sur la petite plateforme du wagon. L'approche du dénouement augmentait ma fièvre. J'avais froid, je frissonnais de tout mon corps, mes dents claquaient. Machinalement, je sortis de la gare avec la foule et pris une voiture pour me rendre chez moi. Durant le trajet, j'observai les rares passants, les portiers. Je lus les enseignes, sans penser à rien. Quand j'eus fait une demi-verste, j'éprouvai un froid aux pieds très vif. Je me souvins que j'avais retiré mes chaussettes de laine dans le wagon et que je les avais mises dans la valise. Étaient-elles là? Oui. Et la malle? J'avais totalement oublié mes bagages. Je sortis mon bulletin, mais j'estimai qu'il ne valait pas la peine de rebrousser chemin. Je ne sais plus vraiment à l'heure actuelle ce que je pensais, ni voulais. Je sais seulement que je sentais se préparer pour moi quelque chose de terrible, un événement d'une importance capitale. Mais je ne me rappelle plus si j'étais le jouet de mon imagination ou si je m'exagérais la gravité de ce qui allait arriver. Peut-être aussi ce tragique événement a-t-il jeté sur les heures qui l'ont précédé un voile lugubre. La voiture s'arrêta devant le perron qui menait à l'escalier de mon appartement. Il était entre minuit et 1 heure. Devant la porte, quelques fiacres stationnaient, dont les cochers avaient été attirés par les fenêtres éclairées, les fenêtres de notre salon et de notre salle à manger. Sans essayer de comprendre pourquoi nos fenêtres étaient éclairées si tard, étreint toujours de la même angoisse, je montai l'escalier et je sonnai. Igor, un domestique brave et zélé, mais fort bête, vint ouvrir. La première chose qui frappa mes regards fut le manteau, suspendu dans le vestibule avec d'autres vêtements. Cela aurait dû m'étonner, mais non, je m'y attendais. C'était donc vrai. « Qui est-ce qui est là, Igor ?»«
Monsieur Troukachevski. »«
Et personne d'autre ?»«
Personne, monsieur. »
Il me fit cette réponse d'un ton joyeux, je m'en souviens, comme s'il eût voulu me faire plaisir et me persuader qu'il n'y avait pas d'autre personne. « C'est bien cela, pensais-je. » « Et les enfants ?»« Oh Dieu merci, ils sont en parfaite santé et dorment depuis longtemps. » J'avais peine à respirer. Mes dents claquaient. Autrefois, il m'était arrivé de revenir chez moi, croyant à un malheur, et de retrouver tout dans son train normal. Il n'en était pas cette fois de même. Toutes les images que j'avais crues trompeuses et qui avaient hanté mon imagination étaient bien réelles. J'étais sur le point de sangloter, mais mon démon me souffla à l'oreille. « C'est cela, laisse-toi aller aux pleurs, à la sensibilité. Et pendant ce temps, ils se sépareront paisiblement, tu resteras sans preuve et te voilà condamné au doute, à la souffrance éternelle. » Immédiatement, ma pitié pour moi-même disparut et un sentiment de joie de voir la fin de mes tortures, de pouvoir la châtier, me débarrasser d'elle, de donner libre cours à ma colère. Et ma colère s'exaspéra. Je fus pris du besoin irrépressible de commettre un acte fauve, méchant et rusé. « Non, non, c'est inutile, » dis-je à Igor qui voulait m'annoncer. « Prends plutôt ce bulletin et va à la gare retirer mes bagages. Dépêche-toi. » Il alla dans le corridor chercher son paletot. De peur qu'il ne donnât l'éveil, je l'accompagnai dans sa chambre et j'attendis qu'il fût habillé. À côté, dans la salle à manger, on entendait le bruit des voix qui se mêlaient au cliquetis des fourchettes et des couteaux. Il soupait et n'avait pas entendu mon coup de sonnette. « Pourvu qu'il ne sorte pas maintenant, » pensais-je. Igor mit son pardessus et sortit. Je fermai la porte derrière lui. Dès que je fus seul, une anxiété profonde m'envahit à l'idée qu'il me fallait agir à l'instant même. Agir. Mais comment? Je ne savais pas encore.
Je savais seulement que tout était fini, qu'il n'était plus possible de douter de son crime, et que toutes mes relations avec elle allaient cesser. Jusqu'alors, j'avais douté. Je m'étais dit que cela n'était pas vrai, que je me trompais. Cette fois, plus de doute. Le sort en est jeté. Comment, en secret, seul avec lui, la nuit, un complet oubli de tout. Pis encore, c'est une audace, une impudence voulue pour que cet excès démontre son innocence. C'est clair, le doute est impossible. J'avais une crainte. C'était de les voir se séparer et trouver une autre du prix qui m'eût privé de la preuve palpable et m'eût enlevé le douloureux plaisir de les condamner et de les punir. Je marchais, pour les surprendre, sur la pointe des pieds. Non par le salon, mais par le corridor et les chambres des enfants. Dans la première, dormaient les garçons. Dans la seconde, la nourrice, qui fit un mouvement et parut vouloir se réveiller. Je me demandais quelle serait sa pensée quand elle saurait tout, et je fus pris d'une telle pitié pour moi-même que des larmes jaillirent de mes yeux. Pour ne point réveiller les enfants, je repassai dans le corridor, sur la pointe des pieds, et j'allai m'affaisser sur le sofa de mon cabinet. Moi, élevé en honnête homme par mes parents, moi qui avais rêvé toute ma vie de bonheur conjugal et de fidélité, moi, avoir une telle destinée. 5 enfants. Et elle embrasse ce musicien parce qu'il a les lèvres roses. Ah non, ce n'est pas une femme, c'est une chienne, une ignoble chienne. Et c'est là, près de la chambre des enfants, qu'elle a toujours fait semblant d'aimer. Et cette lettre qu'elle m'a écrite, et que sais-je, peut-être n'a-t-il toujours été ainsi. Peut-être que ces enfants, que je crois miens, sont les enfants d'un domestique. Si j'étais revenue demain, elle se serait portée à ma rencontre dans un costume et une coiffure pleine de coquetterie, avec des mouvements indolents et gracieux. Et je voyais nettement sa figure si charmante et si méprisable. Et la jalousie, ce cancer dévorant, déchiquetait mon cœur. Que penseront la nourrice et Yegor ? Et cette pauvre petite Lisa, elle comprend déjà. Et cette impudence, ces mensonges, cette sensualité bestiale que je connais si bien. Je voulus me lever, je ne pus. Les battements de mon cœur étaient si violents que je ne pouvais tenir sur mes jambes. Oui, je mourrais d'une congestion et c'est elle qui m'aura tuée. C'est ce qu'elle veut. Ah, mais je ne me laisserai point tuer ainsi. Elle en serait trop aise et je ne lui accorderai pas ce plaisir. Me voilà ici, moi, et eux, là-bas, ils rient. Oui, il ne l'a point dédaignée malgré son âge mûr. Il la trouve encore bien et certes, elle n'aura aucune influence pernicieuse sur sa chère santé. Pourquoi ne pas l'avoir étranglée le jour de la semaine dernière où je la jetais à la porte de mon cabinet ? Je me souvins des sentiments qui m'avaient agité alors. Bien plus, je retombai dans cette même fureur. J'éprouvai un besoin irrésistible d'agir. Tous mes raisonnements disparurent, à l'exception de ceux qui concouraient à mon action. J'étais comme un fauve aux abois, comme un homme exposé à un grave danger qui va droit devant lui, agissant sans hésitation et sans trouble, sans quitter des yeux le but à atteindre.